Bon, j'aimerais commencer par saluer tous ceux qui nous écoutent en ligne et qui sont avec nous en direct. On est ravis de pouvoir partager ce moment avec ceux qui sont dans la salle comme à l'extérieur. Et c'est un moment spécial, Mana et ma nièce, fait qu'il y a plus d'émotion. Mais je vivais la même émotion à écouter tous les autres, fait que... Vous savez, ce matin, c'est spécial ce qu'on témoigne et ce qu'on est témoin. Je vais rattraper mes émotions tranquillement. Vous savez, les quatre personnes qui ont pris ces décisions et qui ont décidé de publiquement témoigner de leur choix, du raisonnement, du processus, font une décision à contre-courant complètement de notre société. Et ce matin, ils vous ont ouvert leur cœur, ils vous ont raconté leur histoire de Dieu personnelle. Alors, ils ne vous ont pas tout raconté, parce que si vous saviez tout. Mais on ne peut pas tout raconter. On a juste un extrait qui nous donne une idée. Et on peut imaginer derrière la scène ce que Dieu a fait pour les amener là, en vous rappelant votre histoire. Ou peut-être vous-même, vous êtes dans ce cheminement-là. Mais ce matin, on est témoin qu'en 2023, Dieu est vivant et qu'il transforme encore des vies. Amen! Et c'est Dieu qu'on applaudit, parce que tout ce qui est de bon en nous, c'est Dieu qui le fait. Et quand on voit des transformations comme ça, il y a juste Dieu qui peut transformer un cœur et l'amener à ce point de brisement, que ce soit à 20 ans, à 15 ans, à 12 ans, à 40 ans ou à 60 ans, d'arriver à ce point de brisement, de dire, c'est assez, j'arrête de me battre contre Dieu, puis de vouloir mener une vie autonome, puis de dire, je suis capable de m'arranger tout seul, puis de dire, non Seigneur, c'est correct, je t'adonne ma vie, j'arrête de me battre. Fais-en ce que tu veux. Et ça, c'est incroyable. Et vous êtes témoin de quelque chose de spécial ce matin. J'espère que vous l'appréciez. Et comme témoin aussi ce matin, bien, notre devoir, vous savez, on a un devoir comme témoin. Comme des témoins dans un mariage, comme témoin d'un baptême, on est là pour prier et accompagner dans le succès de leur engagement chacune de ces personnes, de prier pour eux, de leur donner un mot d'encouragement, que vous les connaissiez ou pas. Et à toutes les fois que vous avez l'occasion de les bénir, de prendre de leurs nouvelles, de le faire, parce qu'on veut les accompagner, participer à leur succès, de marcher en arrière de Christ, à sa suite. Amen. Je vous invite ce matin à prendre vos Bibles, si vous avez une Bible avec vous, un téléphone qui a la Bible, dans le livre de Ruth. Et ce matin, j'étais un peu en débat si j'allais continuer dans notre mini-série dans Ruth. Et pourtant, il m'est venu une anecdote sur cette question de la rédemption qui m'a poussé à dire, on va continuer et regarder le chapitre 3 de Ruth et voir comment c'est pertinent face à cette question de donner sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, en 2023, cette notion de rédemption. Alors, si vous regardez moindrement un peu la télévision, vous savez qu'au Québec, il y a une émission très populaire de ce temps-ci, le dimanche soir, qui s'appelle Survivor Québec. Il y en a quelques-uns qui le regardent, hein? Bon, confessez-vous pas tout en même temps, mais je suis certain qu'il y en a qui sont gênés, là. Mais moi, je peux le dire, je le regarde avec ma femme le dimanche soir, ensemble, et on l'enregistre, maintenant on le regarde, puis on aime bien ça, c'est intéressant de voir la dynamique relationnelle, tout ça. Mais moi, je connaissais pas ça, Survivor. Il y en a qui connaissent ça depuis des années, l'émission anglophone. Et dans Survivor, ce qui m'a beaucoup accroché, c'est ceci. Il y a une île qui s'appelle l'île de la rédemption. Ça sonne une cloche? Ah, vous avez tous les gens qui ont fait, ah, vous êtes parce que vous la regardez, puis vous l'avez pas dit tantôt, hein? Hein, c'est ça, vous assumez pas, hein? Ben moi, je m'assume. Puis il y a une île de rédemption, et j'ai trouvé ça fascinant, ça. Parce que vous savez, l'idée de rédemption, c'est quelque chose qui se retrouve dans la Bible. C'est pas une notion québécoise, la rédemption. C'est pas une notion non plus américaine. C'est une notion biblique, l'idée d'un île de rédemption. Et évidemment, le sens de rédemption a changé. Et la manière qu'on l'utilise dans l'émission, la manière qu'on l'utilise aujourd'hui, dans notre langage commun, n'a pas le même sens exactement. Parce qu'on dit, tu te fais une bêtise, mais tu as l'occasion de te racheter. Hein? Vous avez entendu ça? L'occasion de se racheter, c'est-à-dire, là, tu as fait une bêtise, tu as l'occasion de faire des bonnes affaires pour comme montrer que tu le regrettes vraiment, puis que là, de te replacer dans une position là acceptable pour racheter ta bêtise. Et la rédemption... Et rachat, c'est la même chose, OK? C'est l'idée d'être se racheter d'une situation. Maintenant, la Bible parle du rachat comme une notion extrêmement importante, et c'est Dieu qui a inculqué à l'être humain qu'est-ce que c'est l'idée d'avoir un rédempteur, l'idée d'être sur une île de rédemption, ça vient de Dieu, vous savez, cette notion-là. Et ce matin, j'aimerais, à travers cette histoire-là, vous l'expliquer d'où vient la notion rédemption, pour comprendre pourquoi les gens qui ont été baptisés ce matin disent que Jésus est leur rédempteur, le racheteur. Racheteur de quoi? Racheteur pourquoi? Racheteur comment? Parce qu'on parle d'une transaction à quelque part, si tu peux te racheter de quelque chose, de des actions concrètes. J'aimerais vous en parler ce matin brièvement à travers cette histoire. Et donc, c'est pour ça que je vous invite dans Ruth chapitre 3. Et on est dans une histoire, pour ceux qui ne connaissent pas Ruth, ce personnage de l'Ancien Testament, n'est pas juive, même s'il est dans la Bible juive et dans notre Bible chrétienne. C'est une dame qui vient d'un pays d'à côté, qui ne servait pas Dieu, ne croyait pas nécessairement dans le Dieu d'Israël, et qui tout à coup, par une série de funérailles familiales, longue histoire, elle se ramasse à suivre sa belle-mère jusqu'à Bethléem, le même lieu où le Seigneur Jésus est né, et elle va devenir, par une union spéciale, avec un rédempteur, elle va devenir une arrière-grand-mère de Jésus. Spécial. Et c'est cette histoire qui se retrouve dans la Bible de cette femme qui s'appelle Ruth, mais qui a une belle-mère qui est amère de la vie, amère de ses deux fils qui sont morts, de son mari qui est mort, qui est allé dans un autre pays et qui là revient à Bethléem, la maison du pain, c'est ce que ça veut dire, là, Bethléem, et qui là est amère lorsqu'elle arrive, elle dit « Non, appelez-moi pas Naomi, là, celle qui est désirée, le désir, c'est quelque chose de très positif, son nom, appelez-moi amère. » Parce que je suis vraiment amer contre Dieu. Je suis amer de la vie. Je suis amer d'être parti, puis de revenir, puis il me semble que j'ai tout perdu. J'ai l'impression que Dieu me maudit. Et elle revient dans son pays en se disant amer. Et le livre va nous dévoiler comment Dieu va amener tranquillement cette femme amère de la vie, en douleur de deuil, déçue de Dieu, l'impression qu'elle est maudite de Dieu même, à tranquillement que son cœur soit réchauffé de plus en plus, et de se rapprocher de Dieu. Et c'est Dieu qui va permettre des circonstances pour que son cœur se ramollisse de la dureté qu'il vivait, de la douleur, et la soulager, et tranquillement la voir qu'elle n'est non. Elle est bénie de Dieu, mais par une bru étrangère, par une bru qui vient d'un pays que les Juifs ne devaient pas avoir de relation avec. Il va prendre la plus bizarre des circonstances, la plus bizarre des belles filles, pour en faire son objet de bénédiction, et amener une guérison dans le cœur de cette femme-là qui s'appelle Naomi, qui est amère. Et vous savez, c'est pas surprenant après le deuil d'un époux, le deuil de ses deux fils. Il y a de quoi rendre une femme amère, de douleur, de souffrance. On peut en pâtir avec elle et avoir l'impression que, donc, je suis maudit de Dieu. Elle n'a pas juste imaginé ça. Elle sait qu'elle n'était pas parfaite, qu'elle a fait des choix d'aller dans un autre pays. Peut-être qu'elle aurait dû pas. Elle a des doutes. Mais Dieu est bon. On l'a chanté « Dieu est bon » tantôt. Puis on l'a répété plusieurs fois. Vous savez, on ne le répète pas plusieurs fois parce qu'on a des problèmes de mémoire ici. On ne le répète pas plusieurs fois parce qu'on a des problèmes d'apprentissage. On le répète parce que l'être humain a de la misère à comprendre que Dieu est bon pour de vrai. En tout temps, dans tout ce qui arrive, même de malheur humain, que Dieu reste bon profondément. Et là, elle va en faire l'expérience. On est rendu au chapitre 3 et je vous lis ces extraits du chapitre 3. Ou ce que là, maintenant, elle a réalisé qu'elle est en train de glaner, c'est-à-dire que pour les pauvres, on avait l'opportunité d'aller dans les champs. Et là, ce que les moissonneurs ne ramassaient pas, puis ils faisaient un petit peu par exprès pour en laisser, pour les pauvres, ils avaient l'occasion de travailler puis de ramasser leur croûte pour arriver le soir chez eux, puis avoir au moins un minimum en ramassant les restants de ceux qui travaillaient dans les champs, peut-être avoir un souper, peut-être même avoir un déjeuner le lendemain matin. Alors, elle fait ça, puis elle se rend compte finalement qu'elle est tombée sur le champ de quelqu'un qui est membre de la famille proche de Naomi. Elle ne sait pas, elle est arrivée là par un... Comment? Par un dieu-zard. Ce n'était pas un hasard. C'était un dieu-zard. On a appris ça. Des coïncidences qui sont permises par Dieu et qui arrivent au bon moment. Ou des dieu-sidences. Vous écoutez, vous êtes bon. Et là, on lit ceci. Après avoir réalisé ça, Naomi, sa belle-fille, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, que tu aies un lieu de repos. » Rappelez-vous, quand elle était au chapitre 1, elle dit, « Viens pas avec moi, c'est mieux que tu trouves un lieu de repos, peut-être tu vas trouver un époux. » Fait que là, l'idée d'être un lieu de repos, un lieu apaisé, c'est de trouver un époux, puis là, de vivre en couple. Dieu sait que c'est pas toujours un lieu de repos. Hein? C'est toujours un lieu de repos? Non. Mais bon, elle aspire au bonheur de sa fille et elle veut un lieu de repos afin que tu sois heureuse. Il y a quelque chose qu'elle s'attend qu'il va être bon pour elle de trouver ce partenaire de vie. Mais elle va vivre ça. Elle va vivre ça. Ça va venir. Et maintenant, Boaz, avec ses servantes, duquel tu as été, en parlant de ses serviteurs, donc ses employés, c'est le même mot qu'on utilise pour employé dans l'Ancien Testament que pour un serviteur vraiment esclave, OK? Donc, pour pas se prendre offense ici de parler d'un employé comme un serviteur, duquel il a été, n'est-il pas notre parent? OK? Il est dans notre parenté proche. So what? Voici, il doit vanner cette nuit des orges. Donc, il a travaillé à faire aller au vent l'orge, puis faire partir la cochonnerie, garder ce qui est bon, puis tout un processus. Et là, il va dormir dans l'air. Il dit, lave-toi, oint-toi, puis remets tes habits. Donc, lave-toi, puis mets-toi toute propre, toute belle. Descends à l'air, et tu te feras pas connaître à lui. Arrange-toi d'être discrète, que personne ne te voit aller, que lui ne sait pas que tu es là. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, regarde où il va se coucher. Ensuite, va découvrir ses pieds. Ça devient un petit peu bizarre. Et couche-toi. OK. Et tu lui diras lui-même, et il te dira lui-même ce que tu dois faire. Mais on va se le dire, comme conseil de belle-mère, c'est un peu douteux. Puis on le sait, la réputation qu'ont les belles-mères. Mais moi, je ne peux pas rien dire. Parce qu'elle est là, ma belle-mère. Elle va prendre des notes si j'ai fait un bon sermon. Fait que... Elle est super, ma belle-mère! Non, c'est parce qu'elle sait que je l'aime. Parce que c'est vrai que j'ai une bonne belle-mère. Mais elle ne m'a jamais fait des conseils comme ça non plus. Douteux. Hein? Mais... Imaginez, là, le gars qui va se réveiller, puis que la fille qui est à ses pieds, qui a juste découvert les pieds, parce qu'évidemment, si quelqu'un te découvre les pieds, que tu vas arriver, tu vas geler pendant la nuit, à quelle année tu vas t'enlever, c'est pour ça que je mets des bas la nuit, moi, hein, pour éviter que ça arrive, ce genre d'affaire-là, OK? Too much information, c'est correct. Alors, je vais juste m'arranger pour qu'on suive l'histoire, et je vais aussi ouvrir mon écran ici en avant. Alors, c'est quoi un rédempteur au juste? On est à la recherche et elle est à la recherche d'un rédempteur. On veut comprendre c'est quoi ce rédempteur-là. Et là, on voit ici qu'elle a les directives de Naomi. Et là, on va voir finalement qu'elle prend les conseils tels quels puis elle les pratique. Et on lit ceci. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu dis. » Ben, quelle belle fille, hein? Incroyable. Elle nous impressionne de chapitre en chapitre comme une bru incroyable. Elle descendit à l'air et elle fait tout ce qu'elle avait dit. Une fois que son cœur était joyeux, on dit, puis qu'elle avait bu le soir, elle est allée se coucher, puis elle va faire exactement ça. Et au milieu de la nuit, cet homme au verset 8, une frayeur. Ben oui, il gelait des pieds parce qu'il avait bu. Il se penchant et voici, une femme était couchée à ses pieds. C'est encore plus épeurant. Moi, ça m'arrive pas que ma femme se couche à mes pieds, là. Okay? Mais là, imaginez un étranger qui couche à tes pieds, puis tu t'es couché, puis tu dis, j'ai peut-être bu un petit peu trop hier soir, là, parce que là, il y a une femme, mais il s'est inquiété tout à coup, hein? Et là, il se réveille, puis il dit, qui es-tu? Il fait noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de switch, là, il n'y a pas de 110 à ce moment-là, fait que tout était fermé. Je suis Ruth, ta servante. Alors, il la connaissait bien parce que déjà, il avait beaucoup complimenté dans les chapitres précédents. Elle avait une réputation. Il avait dit, j'entends des belles choses de toi. Écoute, travaille dans mon champ. Il avait passé en arrière, puis il avait dit à ses serviteurs, qu'il n'y en ait pas un qui l'écœure. Laissez-en même un petit peu plus. Et il savait, dans le fond, qui elle était. Il savait la parenté, etc. Il était extrêmement généreux avec elle déjà. Et là, il se rend compte que cette fille-là, qui travaille depuis à peu près 2 mois, parce que là, ici, tout le mois d'avril, mai, et là, on arrive à la Pentecôte. La Pentecôte de cette année, c'était à la fin du mois de mai. Donc, ça fait 2 mois solides là, qu'elle a passé l'orge, le blé et qu'elle essaie de survivre dans tout ça. Puis lui, il la regarde aller. Puis là, tout à coup, cette madame-là, dans la nuit, elle a enlevé sa couverture de ses pieds. Puis elle est là, puis elle dit, c'est moi. Alors, on a toute notre attention ici. Elle lui dit ceci, étends ton aile sur ta servante. C'est une expression pour dire, prends ton manteau puis couvre-moi. C'est une expression de protection. Et c'est une belle expression en passant. C'est une expression qui est utilisée pour parler de Dieu envers nous, envers le peuple d'Israël, qui étend sa protection sur nous. car tu as droit de rachat. Tu es un rédempteur. Notez bien ça, c'est la deuxième fois dans le livre que ça apparaît. Au chapitre précédent, on le dit, hey, je vois que Dieu est bon. Elle constate avec tout ce qui arrive à sa belle-fille, Dieu est bon. Et en disant que Dieu est bon, tout après, elle dit, il a pourvu que tu te ramasses dans un champ d'un rédempteur, d'un proche parent qui peut me racheter. C'est ça un rédempteur, un racheteur, si vous voulez, en bon québécois. Et donc, elle fait ça. C'est pas compliqué, hein, c'est... Tu as le droit de rachat, c'est ça qu'elle a dit. Ça a arrêté là, puis après ça, OK, il faut qu'il me dise quoi faire maintenant. Alors, il dit, sois béni. Donc, là, maintenant, on a la bénédiction et les directives de Boaz. Sois béni de l'Éternel, ma fille. Quel bel, beau mot de gentillesse. Ce dernier trait témoigne encore plus. Donc, il dit, ton comportement-là témoigne encore plus en faveur de la première, car tu n'as pas recherché les jeunes hommes pauvres ou riches. Tu décides de venir vers moi. On comprend par cette expression-là que peut-être notre Boaz était peut-être un petit peu plus vieux que ce qui était sur le marché des joueurs autonomes de l'époque. T'sais? Et que peut-être qu'il était veuf. Hein? Il avait peut-être allé dans la vingtaine, puis lui dans la cinquantaine. On ne sait pas exactement, mais il a dit, tu aurais pu aller vers d'autres jeunes. On comprend que peut-être lui est moins jeune. Maintenant, ma fille, ne crains point, n'aie pas peur. Parce qu'évidemment, elle s'est mise à risque là, de venir le soir de même, elle a une réputation. Puis malgré qu'elle est une étrangère, elle a gagné rapidement dans le respect de la communauté. À voir, cette fille-là est incroyable, elle travaille au bout, elle est toujours là pour sa belle-mère juive. Elle vient du pays d'à côté, puis c'est des gens qui n'ont pas une relation de respect avec eux autres du tout, d'une tribu qu'on peut recommandable. Et là, il la voit aller, et elle s'arrange pour... Mais là, elle prend un risque en se faisant voir. On va y coller tout de suite. Ah, c'est une Moabite, on sait bien, les Moabites, on va te raconter l'histoire de l'Ancien Testament, là. Ils n'ont pas une belle moralité. Là. Non, elle a fait attention, mais elle se met à risque ici. Là. C'est un pas de foi qu'elle fait. Et maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car... toute la porte de mon peuple, c'est une expression pour parler les gens à l'entrée de la ville, sur l'endroit là, de l'hôtel de ville où ce qu'on se connaît, ce qu'on parle des choses qui se passent, c'est que tu es une femme vertueuse. Et là, on est obligé de s'arrêter ici si on est moindrement connaissant de l'Ancien Testament parce que c'est la seule femme de l'Ancien Testament qui est non-juive en plus, qu'on dit qu'elle est vertueuse. C'est la seule. Pour le juif, il vient de lire le livre des Proverbes. Il vient de lire le Proverbe chapitre 31. Le livre tout de suite après, dans la Bible juive, c'est Ruth. Et là, boum, c'est une Moabite, la femme vertueuse. C'est même pas une juive, imaginez. C'est assez ironique. Et l'autre homme vertueux qu'on apprend, c'est qui? C'est lui. Au chapitre précédent, on a dit que c'était un homme vaillant ou un homme vertueux. On parle du caractère moral de l'individu. Pas qu'il a fait des grands combats nécessairement, même si l'expression peut aller dans ce sens-là. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Oh, OK. Là, ça vient de rendre les choses compliquées. Là. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi de droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel, l'Éternel est vivant. Reste couché ici jusqu'au matin. Il veut garder sa réputation. Puis, il veille sur elle. Elle reste accouchée à ses pieds jusqu'au matin. Je sais, la plupart, on se dit, comment ils ont été capables? Hein? Mais la Bible, vous savez, elle ne gêne pas quand elle dit qu'il y a des relations sexuelles. Elle le dit. Ils sont connus. Puis, il y a plein d'histoires qu'il raconte. Il cite, on prend la peine de rien, il n'y a rien. Tout semble pur. Dans un désir tellement soucieux d'obéir à Dieu. Il y en a qui vont spéculer des choses aussi, mais le texte est bien clair. On voit deux personnes qui sont extrêmement respectueux l'un de l'autre et qui veulent obéir à Dieu et être honorables. Elle reste accouchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'ils puissent se reconnaître l'un l'autre. Et là, Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée ici. Je veux être sûr pour ta réputation, les gens pourraient interpréter des choses. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint. Et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Ça fait une robe assez pesante, vous savez, quand tu sors ta robe de main, c'est à peu près 80 livres. Elle ne devait pas être 120 livres mouillée, là, Ruth. 80 livres jusqu'à chez eux, là, elle devait être faite forte. Okay? Alors, elle travaillante, elle endure la chaleur du jour, elle revient, puis l'autre fois, elle est revenue avec un 35 kilos. Hein? Là, elle revient avec un 80 livres. C'est OK, t'as, ouais, elle est faite forte. Puis le monsieur est un peu plus vieux. C'est pas un couple classique, là, nécessairement, là, hein? On n'est pas dans Hollywood ici, là. Et Ruth revient après à sa belle-mère, et Ruth, et elle, elle dit, est-ce toi ma fille? Parce que là, il fait noir, évidemment. Elle l'a pas reconnu, là, la lumière est pas allumée. On n'est pas sur le 110 à ce moment-là. C'est encore des chandelles. On les a fermées, puis là, elle arrive. Ruth lui raconta tout ce qui est arrivé avec l'homme. Et elle dit, au verset 17, il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et là, ici, il y a une petite attention avant qu'on lise la dernière phrase, une petite attention envers la belle-mère. Rappelez-vous, la belle-mère, elle dit, je suis amère au chapitre 1 parce que je suis venu à vide, j'ai rien. C'était pas très flatteur pour la bru qui suivait, parce que ça voulait dire que c'était elle, rien, à peu près. Hein? Et là, tout à coup, lui, il dit, moi, je veux pas que tu retournes vers ta belle-mère. À vide, c'est le même mot qui est utilisé. L'auteur est en train de nous dire ici, là, écoutez, Dieu, il fait des clins d'œil, puis il prend soin d'elle, puis elle revient pas à vide. La bru, là, elle amène des affaires, puis elle amène des affaires. Puis Dieu l'utilise, la bru, qu'on penserait jamais qu'il serait une bonne bru comme ça, qui bénirait sa belle-mère. Puis elle ramène 80 livres, imaginez, toute qu'une bru. Vraiment, là, 80 livres de stock. Et là, il dit ceci, c'est la dernière phrase du chapitre. « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne donnera point de repos, il ne se tiendra pas tranquille jusqu'à ce qu'il ait terminé cette affaire ce jour, aujourd'hui. » Faites-en pas, ça c'est le genre d'homme, elle savait que c'était un homme vaillant, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. S'il t'a dit qu'il va faire quelque chose, c'est un homme qui fait ce qu'il dit. Wow! Quel bel exemple pour nous les papas aujourd'hui, hein? Boaz, cet homme qui fait ce qu'il dit. Qui tient ses promesses. Quelqu'un qui s'en revient d'abord, je m'en occupe. Tu peux rester tranquille. Wow! Il n'est pas parfait. Il a sûrement eu des moments difficiles. Mais Boaz est cet homme fiable que Naomi et Ruth disent, c'est correct, il s'en occupe. Je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Parce qu'il va le faire aujourd'hui. Il va faire ce qu'il a à faire comme homme. Et nous, les hommes, on est appelés à faire ce qu'il faut comme père, comme travailleur, comme époux, comme voisin, être comme Boaz. Simplement, des hommes de caractère qui sont fidèles, qu'on peut se fier dessus. Que le Seigneur nous rende ces hommes comme Boaz, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin de Dieu, amen? On n'est pas naturellement comme Boaz. Et si Boaz est de même, vous savez, c'est évident, le texte le fait transpirer parce que c'est un homme qui a foi en l'Éternel. Tout au long, il parle toujours de Dieu dans toutes ses relations. Il a dit tout de suite, l'Éternel est vivant. Dieu est dans toutes ses conversations parce que Dieu n'est pas en théorie dans sa vie. Dieu est très pratique. Maintenant, donc, elle obéit. Et là, on se demande, mais d'où vient cette histoire-là d'un rédempteur? J'aimerais juste vous lire un texte ici qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 25. Et je ne vais pas vous le lire à dos, fait que je vais le prendre dans mes notes ici. Pour comprendre c'est quoi cette idée d'un rédempteur. Je ne vous lirai pas toute la documentation sur le sujet parce que ça pourrait être long. On n'a pas le temps ce matin et on veut tous aller manger ensemble en haut quand même. Alors, je vous lis ces quelques versets. « Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle. » Je sais, là, il y a beaucoup d'entre vous qui disent, je voudrais vraiment pas mon beau-frère, OK? Mais c'est pas le sujet de ce matin, OK? C'est un principe, si vous allez comprendre. La prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom. Donc, ça veut dire que si mon frère meurt, puis là, il y a pas eu d'enfant, l'idée que je prenne ma belle-sœur si j'ai pas d'épouse moi-même, évidemment. C'est que le premier enfant va porter le nom de mon frère pour pas qu'il y ait aucune personne en Israël dont la famille disparaisse. Dieu était soucieux. Chaque nom est important dans ma communauté et précieux. Fait que, si vous trouvez ça bizarre, comprenez ici l'intention de Dieu. Dieu est en train de dire, chaque nom est important. Je veux pas qu'aucun nom soit oublié parce que moi, j'ai oublié dans mon livre, il n'y a aucun nom qui est oublié. Vous voyez? C'est rassurant de voir dans la loi toute cette notion-là ici. Mais en même temps, ça demande un sacrifice aussi pour le frère qui faisait ça. Peut-être qu'il ne tripait pas sa belle-sœur. Ça arrive souvent que tu ne tripes pas sa belle-sœur. Je ne vous parlerai pas de ma belle-sœur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas simple d'obéir à ça. C'est compliqué, là. Puis là, le premier, mais si tu n'as pas d'autre fils, peut-être que tu n'auras pas de fils toi-même qui portera ton nom. Qu'est-ce qui arrive? Tu as juste un fils, tu le sacrifies à ton frère pour qu'il lui porte ton nom. Là, ça veut dire que tu dois faire confiance à Dieu qu'en obéissant, Dieu va prendre soin de toi. Puis que tu fais ça parce que Dieu le demande, puis tu fais confiance à Dieu pour le reste. Vous voyez? C'est un grand pas de foi faire une chose comme ça en Israël. Donc, c'est pas tout le monde qui pratiquait la loi à ce niveau-là, afin que son nom ne soit pas effacé en Israël. Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte des anciens, donc l'idée de la porte de la ville, où ce qu'on avait les transactions, c'était comme un notarié. Mon beau-frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël, elle va le clamer. Il ne veut pas épouser conformément à son droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront l'homme, lui parleront, il persiste dans sa position, il dira, je ne veux pas l'épouser. Donc, c'était possible de le faire. Et là, la belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, enlèvera sa sandale de ses pieds, ok, c'est encore bizarre ici, là, et lui crachera au visage. Ça vient de ternir les relations de beau-frère, hein, belle-sœur, là. Ça va bien, finalement, chez nous, hein, nos relations, là. Là, remarquez bien, il dit, prends la parole et dira, voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la maison de son frère. Vous voyez, parce que tu es en train de dire, je me fous de mon frère. Son nom, je suis prêt à le laisser disparaître. Fait qu'il y avait un élément de honte là-dedans. Et là, il dira, la famille l'appellera en Israël, la famille du déchaussé, celui qui n'a pas voulu, dans le fond, prendre soin de sa famille, puis d'honorer le nom de son frère, qui avait l'opportunité de relever le nom de son frère, puis il s'en est foutu. Alors là, ça nous aide à comprendre ce qui va se passer dans ce chapitre-ci et le chapitre suivant, chapitre 4. C'est cette tradition-là. Mais on pourrait lire bien d'autres, mais je ne le ferai pas, on n'a pas le temps ce matin, d'autres textes qui nous racontent dans Lévitique, une trentaine de versets qui nous parlent 19 fois de cette idée de rédempteur. C'est-à-dire que peut-être tu avais eu en Israël une mauvaise année, deux mauvaises années de récolte, trois mauvaises années, puis là, ça va pas bien. Que finalement, un de tes fils est mort, puis t'as pas bien récolté, puis là, tout à coup, t'es obligé de vendre ta terre. Mais la Bible nous dit, la terre appartient à Dieu, puis vous ne pouvez pas juste vendre vos terres ici. Là. On n'est pas dans le capitalisme. Là. On est dans le Dieu est au contrôle de cette terre, puis ça lui appartient. Donc, Dieu veut que chacun ait une terre pour subvenir à ses besoins. Si tu es obligé de le vendre parce qu'il y a eu des mauvaises années, bien, tu as l'occasion de le racheter éventuellement, que tu as un droit de rachat. Mais souvent, quand tu as été pauvre, bien, c'est dur de sortir de la pauvreté. Donc, un membre de ta famille pouvait, lui qui allait bien, racheter ta terre pour toi et agir comme racheteur, comme rédempteur. Vous me suivez jusqu'ici? Si vous me suivez, faites juste un petit signe de tête comme ça, là, puis ça va être super. OK? Vous n'aurez pas de torticolis si vous me suivez puis vous me répondez comme ça, OK? Donc, l'idée, c'est que il peut arriver des malheurs, puis tout le long, c'est si ton frère a un malheur, il est appauvri. Si ton frère a tel malheur, il est appauvri. Puis là, il donne différentes circonstances pour comprendre tout ce mécanisme d'un rédempteur. Maintenant, comprenez bien ceci. Malgré que tu avais pour toi la possibilité de racheter ton terrain, c'était pas toi, souvent, dans ta pauvreté. Puis là, souvent, vous savez ce qui arrive dans la pauvreté, ça s'enlise. Hein? Qu'il y avait, finalement, il fallait que tu trouves un moyen, ou bien qu'il y avait un membre dans la famille qui, par la foi dans la loi de Dieu et dans le Dieu d'Israël, allait faire ce pas de foi de dire, ben moi, je vais racheter par obéissance à Dieu. Je vais être le racheteur pour permettre qu'il puisse ravoir sa terre pour pourvoir à sa famille. Et là, tu étais content si tu avais quelqu'un dans ta famille qui agirait comme rédempteur, racheteur. Vous voyez? Maintenant, tout au long, on voit cette notion-là que quelqu'un qui agit envers toi comme rédempteur, c'est un acte de foi envers Dieu. Il prend un risque, mais il croit que Dieu, en obéissant, Dieu va prendre soin de lui, puis c'est suffisant pour faire ce pas de foi-là. Il veut obéir à Dieu. Il veut honorer sa famille, honorer la loi de Dieu qui pense à tout le monde et qui pense à toutes les différentes circonstances qui peuvent arriver. Puis Dieu y est attentionné et permet un mécanisme de restauration quand tu as perdu ton bien. Peut-être, il dit, quelqu'un se vend comme esclave. C'est mentionné dans le texte. Ça va tellement mal que tu te vends toi-même et ta famille pour devenir esclave de quelqu'un parce que c'est tellement allé loin. Tu as vendu ta terre, tu t'es vendu toi-même. Il y avait des mécanismes pour que tu ne restes pas esclave. Puis que tu sois traité avec respect. Il va le mentionner dedans. Traitez-vous pas avec dureté. C'était le même mot utilisé pour la manière dont les Juifs avaient été traités par les Égyptiens. On se fera pas ça, nous, on est frères. Et tout le long, le motif, c'est on est frères. L'autre motif, c'est on craint l'Éternel. Puis l'Éternel, il est vivant. Puis vous êtes son peuple. On va se traiter d'une façon qui démontre ça. Que Dieu a la priorité parmi nous. Puis c'est pas juste théorique. Non. Ça nous coûte quelque chose, puis on le fait. Parce qu'on y croit. Fait que l'idée d'un rédempteur, c'est quelque chose d'extrêmement spécial. Quand on arrive à l'idée moderne aujourd'hui d'un l'idée de rédemption, L'île de la rédemption, c'est que là, t'es mort, puis là, t'as l'occasion de te racheter, de te refaire vivre, revivre dans le jeu. Que là, en gagnant des épreuves, en étant persévérant, en étant tenace, en étant astucieux, que tu vas réussir à avoir une deuxième chance, et là, t'as eu ta rédemption. Vous voyez? Mais tu la gagnes, ta rédemption. Vous voyez la nuance? Toute la notion de rédemption de l'Ancien Testament est toujours l'idée à la base, même si tu réussis à travailler un scénario, il y a quelqu'un en cours de route qui use de grâce envers toi sans aucune faveur. C'est pas mérité. Tu peux pas l'avoir gagné, cette faveur-là. C'est un geste d'obéissance en Dieu, envers Dieu, un geste de s'oublier, de prendre des risques pour Dieu, pour la famille. Parce que je crois en Dieu, puis je crois que s'il dit ça, c'est parce que c'est important, je dois le faire. Fait qu'imaginez comment, quand tu avais un rédempteur dans ta famille, sorti de ta situation difficile, hey, tu devais-tu être reconnaissant, pas à peu près, hein? Lui, t'oubliais pas sa fête, sûrement. Tu voulais, puis est-ce que tu te forçais? Non, t'es tellement reconnaissant que quelqu'un dans ta famille t'a permis de sortir de l'esclavage ou t'a permis de retrouver ton terrain que t'avais perdu il y a 10 ans, puis qui décide, oui, il m'a payé, il m'a perdu de l'argent, mais j'ai eu des bonnes années, moi, je vais aider mon compatriote, mon frère, parce que Dieu me le demande, c'est la bonne chose à faire. Puis toutes mes économies, je les ai passées, mais garde, c'est Dieu mon économie, pas mes biens. Vous voyez? Fait qu'un rédempteur, c'est quelque chose de, un principe et quelqu'un qui devenait extrêmement précieux dans ta vie, veux pas. Parce que tu n'avais pas pu mériter ça. Contrairement à l'île de la rédemption, que tu peux travailler pour le mériter. Regardez bien maintenant. Je vous donne un résumé, parce que je ne peux pas tout vous expliquer ça. On resterait ici jusqu'à après-midi, et je suis certain que vous voulez manger. Mais je vous fais avancer la diapo, et je vous donne un résumé. Le livre d'Ésaïe en parle plusieurs fois du Rédempteur. C'est intéressant, le livre d'Ésaïe, celui qui en parle le plus dans l'Ancien Testament, en parle de la loi. Et il nous annonce la venue du Messie. Et là, ça nous aide à comprendre c'est pourquoi Jésus est appelé un Rédempteur. Mais avant lui, quelqu'un d'autre est appelé Rédempteur. Le livre d'Ésaïe nous en parle souvent. Et remarquez bien les petits traits, les caractéristiques qui sont autour de l'idée de rédemption. OK, je vais avancer rapidement. Suivez-moi. Alors, Ésaïe dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. » L'Éternel est le roi d'Israël. Et son rédempteur. Pourquoi? Son Gaal, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, celui qui t'a racheté, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. L'idée de rédemption est possible si tu as un créateur. Tu ne peux pas avoir de rédempteur si tu n'as pas un créateur, parce que c'est le créateur qui a inventé la rédemption. C'est lui qui a fait la rédemption d'Israël. Et si on comprend l'idée qu'on a besoin d'un rédempteur, qu'on est des pécheurs, qu'on est dans des situations difficiles, le seul moyen, c'est s'il y a un créateur qui pourvoit un moyen de nous en sortir. Et tout au long qu'il y a un lien avec rédempteur, il y a un lien avec le fait d'avoir un créateur, quelqu'un qui m'a formé, avec attention. Et donc, quand je suis dans un malheur, a vu à des moyens pour me sortir du malheur. Vous voyez la différence? Donc, tu n'as pas besoin d'un rédempteur si tu ne crois pas qu'il y a un créateur. Ça commence avec croire au créateur. Et après ça, en croyant au créateur, tu peux en arriver à comprendre que tu as besoin d'un rédempteur. Regardez bien ce qu'il dit après. Notre rédempteur, notre Gaal, ou Goël, et celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Alors pour nous, c'est clair, c'est le Dieu d'Israël qui est appelé 24 fois comme ça dans Ésaïe. Ça le distingue, c'est l'Éternel, le Dieu créateur. Il n'y a pas de nuance ici. Mais là, on arrive au chapitre 52, on nous dit, c'est ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu, et c'est aussi pas par prix d'argent que vous serez racheté. Fait qu'il n'y a pas moyen que tu gagnes ton rachat. Israël a eu ça gratuitement. Tout comme elle a été laissée m'amener dans des malheurs parce qu'elle a fait des bêtises, puis Dieu n'a pas chargé rien, et elle l'a laissé aller. Mais il dit, le rachat va se faire aussi sans aucun mérite lié à l'argent, à la productivité, à des bonnes œuvres. Ça va être un acte gratuit de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait envers Israël lorsqu'il a sorti Israël de l'Égypte. Hein? Il les a sortis d'une façon qu'il ne pouvait pas le mériter, qui était signé Dieu tout au long du processus. Une autre notion ici importante, dans un instant de ta colère, je t'avais à un moment dérobé de ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur. Et donc, l'acte de rédemption est un acte d'amour et de compassion. Tu fais ça parce que tu aimes. Tu fais ça parce que tu as pitié, que dans tes intestins, dans tes entrailles, dans tes tripes, tu sais que c'est la chose à faire. C'est ça la compassion chez les Juifs. Ça vient de là. Puis que tu sais que, non, je peux pas dire non à ce que mes tripes gargouillent puis me disent, il faut que tu fasses quelque chose. J'agis. Et je démontre cet amour-là. Donc, c'est un geste d'amour de la part de Dieu et de compassion. Aucun mérite. Gratuit, amour, compassion. Rien qui peut être gagné. Et finalement, on observe quelque chose. Un rédempteur viendra pour Sion. Il dit, mais c'est moi le rédempteur ici. Il dit, l'Éternel, c'est le rédempteur. Mais là, l'Éternel, dans la prophétie d'Ésaïe, dit, il y en a un qui s'en vient. OK. C'est un peu bizarre. C'est le rédempteur, mais il y en a un qui s'en vient. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient d'encore plus pointilleux, de plus précis qui s'en vient. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Fait que déjà, Isaïe est en train de dire, cette rédemption-là, il y a quand même une responsabilité qu'on va avoir. C'est de reconnaître qu'on est des pécheurs et qu'on en a besoin. Sinon, si je ne suis pas pécheur, pourquoi j'aurais besoin d'être racheté de ma situation? De quelle situation? M'arrange bien tout ça. Et déjà, c'était prévu. C'est à travers la conversion, c'est à travers la repentance des péchés que va être reçu. Ce n'est pas un mérite. C'est tout simplement un acte de contrition qui va avec le fait de reconnaître son Rédempteur. Regardez bien le Nouveau Testament, et c'est avec ça qu'on va terminer avant de conclure. Jésus dit ceci, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être, pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. » Donc, comme pour faire un paiement pour quelqu'un qui a une dette, pour libérer de l'esclavage. C'est l'expression qu'on utilisait, et c'est le même mot que les Grecs, il y a 2300 ans, ont utilisé pour traduire l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit avec ce mot-là. Payer une rançon, payer la dette. Parce que quelqu'un qui avait besoin de rédemption, il avait accumulé une dette. Ça n'avait pas bien été. Quelqu'un avait dû racheter le terrain parce qu'il fallait qu'il paye sa dette pour vivre. Et là, Jésus dit, moi, je suis venu. Puis, pourtant, c'est le Créateur qui s'est fait homme. Dieu qui a marché parmi nous. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour servir. Pour être servi. Je suis venu pour moi m'offrir, moi-même, pour payer quelque chose. C'est intéressant. Et là, il dit ici, de Paul, qui se donnait lui-même, en parlant de Jésus, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié pour lui et zélé pour des bonnes œuvres. Remarquez, les œuvres et le changement vient après. Tu as été racheté et là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe après? Ben là, tu es tellement content, tu es tellement reconnaissant, tu étais perdu, il n'y avait plus rien à faire. Et là, tu vas faire des bonnes œuvres pour ton Rédempteur, tu es reconnaissant. Il produit en toi de la reconnaissance parce que tu vois comment tu étais perdu, puis c'est comme, waouh, il n'y avait rien à faire. Puis mon Rédempteur, il a fait tout ça pour moi. Ben c'est juste normal. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Ah, je suis tellement content. Écoute, je te parle de mon Rédempteur. Il est tellement cool. Puis là, écoute, tu ne te gênes pas de parler de ton Rédempteur dans la famille. Il est incroyable. Vous voyez? C'est pas un effort. Ça vient naturel, parce que tu es tellement touché de sa gentillesse, de sa bonté. Pierre va dire aussi, donc Jésus en parle, Paul en parle, Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, donc des choses qui vont disparaître, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous étiez héritier de vos pères. Donc, la manière que tu avais appris de tes pères, d'être un pécheur naturellement, on passe ça de père en fils, de mère en fille, mais c'est Jésus qui a réglé ça. Jésus a racheté. Puis il n'y a rien là-dedans qui est lié à de l'or puis de l'argent dans la transaction. C'est spécial, hein? Et un dernier, Hébreu. Il est entré une fois pour tous dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, donc des sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament avant, pour garder notre relation avec Dieu, pour confesser nos péchés, non. On recommençait tout le temps, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et donc, l'idée ici, c'est qu'avant ça, si tu avais un rédempteur, ben, il pouvait peut-être racheter ta situation, mais dans 10 ans, tu vas repasser des vaches maigres, puis encore avoir des années où ça va pas bien, puis là, tu es obligé de revendre ton terrain, mettons. T'sais, ça pouvait arriver encore, right? Quand Jésus rachète ta situation, c'est permanent. Là, on est dans une autre gamme de rédemption ici, là. Même si tu es racheté, là, si tu es racheté de l'île de rédemption, tu retournes dans le jeu, tu vas perdre encore, désolé, là. Il y en a un qu'il faut qu'il perde. Hein? On sait juste pas encore c'est qui. Mais si Jésus rachète, c'est éternel. Il n'y a pas de revenez-y. Parce qu'il n'y a pas rien qui a été utilisé comme transaction qui est lié à quelque chose que tu peux enlever. C'est lié à ce que Jésus a fait, rien d'autre. Puis ce qu'il a fait, c'était parfait. C'était total, c'était final. C'est pour ça qu'à la fin, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je termine en vous donnant quelques pistes de réflexion avant qu'on se laisse et qu'on fasse un dernier chant. Encore une fois, dans notre histoire, Ruth démontre sa foi par son obéissance aux conseils et directives de sa belle-mère et même les directives de Boaz. Elle décide de prendre l'option risquée du droit de rachat. Elle décide de prendre l'option de ce que le juif modèle devait faire, croire dans la loi de Dieu, au lieu d'aller vers l'alternative des jeunes hommes, jeunes et riches, et chercher l'amour. Non, elle décide de prendre le chemin le plus noble, celui qui est attaché à faire confiance à Dieu entièrement pour ma situation. C'est spécial. Nous voyons Dieu honoré encore une fois par Ruth, par la bénédiction dont Boaz lui fait, qui pourvoit encore à ses besoins, qui traite cette femme vertueuse avec respect et qui prend les choses en charge comme un vrai homme responsable. Et il rassure Ruth et Naomi de leur futur. Je m'en occupe. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Wow! Autre chose, cette histoire, évidemment, est également une belle histoire de la rédemption qui nous est offerte par le sacrifice de Jésus-Christ. Elle nous montre la relation de Christ avec ceux qui croient en lui et qui lui appartient. Parce que de la manière qu'il se traite, Boaz, Ruth, et que Dieu les utilise pour faire du bien à Naomi, est toute une expression de comment Dieu prend soin de nous. De manière tellement attentionnée. Et Dieu utilise des gens pour faire du bien à Naomi. Il utilise la bru, le proche parent, pour réchauffer son cœur, la rassurer qu'elle n'est pas une maudite. Puis que Dieu a des plans. Puis que sa vie n'est pas finie après le deuil. La vie n'est pas finie après le divorce ou après le malheur qui vient de te frapper. Il y a encore de l'espoir. Ça ne s'arrête pas là. À ton célibat, à ta perte d'emploi, à ton enfant, à la relation brisée avec quelqu'un. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore de l'espoir. Les étapes que prend Ruth sont une si belle image des étapes que nous devrions aussi nous prendre comme elle pour avoir une plus grande intimité avec le Seigneur. Ruth était satisfaite de simplement ramasser les restants ou même de recevoir des cadeaux de Boaz. Nous devons, comme elle, vouloir que lui et que lui seul. Car lorsque nous avons tout ce qu'il possède également, lorsqu'on a lui. Lorsqu'on a le Rédempteur, nous avons tout ce qu'il a. Ce n'est pas le cadeau que nous voulons rechercher, mais c'est celui qui donne ce cadeau, le Rédempteur. Je termine avec ces deux versets qui viennent résumer ce que ça veut dire concrètement. Car nous avons été rachetés à un grand prix. Il n'a pas lisé sa dépense, il n'a pas été cheap. Et voici ce que ça devrait produire. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pourquoi ils ont décidé, je veux le donner pour toujours ma vie, en voyant ce que Christ a fait? Ben, moi, j'étais perdu. Dans le fond, ma vie ne valait pas la peine d'être vécue sans Jésus. Fait que là, qui m'a sauvé, que j'ai un rédempteur, ben, c'est comme, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, je veux te glorifier, c'est-à-dire je veux t'honorer le reste de ma vie. Que toute ma vie, que tout mon temps, mes pensées, mon argent, tout soit pour toi. C'est naturel, c'est le débordement de si je comprends que j'ai un rédempteur. Mais si je ne comprends pas ce que c'est un rédempteur, il ne faut pas se surprendre aussi qu'on a de la misère à se donner en lui entièrement. Il le mérite parce qu'il a payé cher. Regardez, vous avez été racheté à grand prix, il dit encore Paul. Ne devenez pas esclave des hommes. Si ça a été racheté, ça veut dire aussi que ta vie n'est plus la même. Elle appartient à quelqu'un d'autre qui t'a rendu libre. Ne te remets pas dans l'esclavage des êtres humains, à plaire les autres, à suivre le courant, à vouloir... Non. Il a tellement payé cher pour t'avoir, puis que tu as compris finalement que tu en avais besoin, puis que tu as dit oui. Remets-toi pas en esclavage. Remets-toi pas sous la domination de tes désirs, la domination de ce que le monde te dit de faire, les valeurs d'ailleurs, continue maintenant à contre-courant. Comme chacun d'eux ont décidé ce matin, à contre-courant. Et donc, la question ce matin pour chacun de nous, est-ce que Jésus est ton rédempteur? J'ai invité l'équipe à s'approcher, puis on va terminer là. Et après ça, on va aller manger, parce que plusieurs restent pour le dîner, pour nos invités, pour la famille. On est vraiment heureux de voir vous accueillir. Permettez-moi de juste terminer ensemble. Je vous invite à vous lever, à terminer ensemble et de prier. Courbons-nous justement devant notre Créateur, s'il vous plaît. Ô Dieu, notre Créateur, mais également celui qui a pourvu un moyen comme Rédempteur pour ta créature égarée, pécheur, qui veut faire sa propre affaire, tu as pourvu un moyen aussi pour nous racheter. Merci Seigneur d'être un Dieu, un Papa si bon, un Père céleste si attentionné dans les moindres détails, qui a vu un moyen, même dans notre ingratitude, comment on n'était pas fin, comment Seigneur on utilise ton nom en vain, comment on se fout de toi Seigneur, et pourtant tu as fait tous les pas nécessaires pour venir vers nous et pour voir un moyen de rédemption, un moyen de nous racheter, de payer le prix, de faire les pas ingrats. Et même lorsque les gens disent « Non, j'en veux pas », tu continues à cogner à d'autres portes. Je t'offre, je te l'offre, je te l'offre. Et tu nous offres à chacun d'entre nous, Seigneur, cette main tendue d'être racheté de notre situation. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ce matin. Aide-nous à apprécier, à être reconnaissant pour ce proche parent qui nous a racheté notre situation. Tu es venu notre frère Jésus sur terre. Père, t'as envoyé ton fils pour qu'il devienne comme un frère, comme une sœur, comme un proche parent sur terre pour venir faire cette action-là envers nous, mais pas pour la propriété, pas pour une job, pas pour avoir du pain sur sa table, mais vraiment pour notre âme perdue. Merci. Merci, Seigneur. Puissions-nous le comprendre, le saisir, l'apprécier et en être fiers de notre Rédempteur. Merci, Seigneur. Père céleste, d'avoir envoyé ton Fils. Merci, Fils de Dieu, d'avoir obéi. Merci, Esprit Saint, d'avoir envoyé Jésus, de l'avoir soutenu pour aller jusqu'au bout, pour qu'on puisse parler 2000 ans plus tard après Jésus de ce Rédempteur, le seul et unique Rédempteur qui pouvait racheter pour toujours de nos péchés. Merci. Merci qu'aujourd'hui, en 2023, même au Québec, on parle de rédemption dans des émissions. Peut-être on ne comprend pas d'où ce que ça vient. Mais on en parle encore et c'est toi qui as inventé ça, Seigneur. On fait juste remettre les pendules à l'heure. On fait juste réexpliquer d'où viennent les choses. Mais dans toutes ces choses-là, c'est Jésus qui est signé derrière. C'est Dieu le Créateur. Et on veut juste te redonner la place, Seigneur. Prends la place qui t'appartient comme Créateur. Merci pour ces témoignages. Et Seigneur, pour nos cœurs qui cherchent ce matin, si certains n'ont pas encore pris cette décision, Seigneur, parle à leur cœur, qu'ils puissent venir à cette même décision que nos quatre baptisés qui ont témoigné que tu as été patient envers eux, que tu les as aimés, qu'un jour, ils ont pris cette décision-là et qu'ils ne veulent plus jamais tourner le visage en arrière, mais regarder en avant avec Jésus. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.